Salut, vous êtes bien sûr Détournement féministe et aujourd'hui, compte tenu de la situation exceptionnelle, nous avons décidé de diffuser une émission réalisée par 6 meufs ayant participé aux rencontres de pédagogie féministe l'été dernier. Cette émission a été enregistrée en janvier 2020 dans les studios de Fréquence Paris Pluriel. Elle fait suite à un atelier consacré à l'hétéronormativité en situation d'enseignement ou d'animation avec des personnes de tous âges. Elle est divisée en 3 épisodes que vous pouvez retrouver dès maintenant sur le site radiorageuse.net dans l'onglet émissions ponctuelles. Nous diffusons aujourd'hui le premier épisode et le début du deuxième. En attendant de vous retrouver le mois prochain, on vous souhaite bon confinement et bonne écoute. Salut !
Hétéronormativité et crotte de nez.
Sérieux.
Franchement, tu vois une émission qui s'appelle Hétéronormativité et crotte de nez, tu cliques, tu y vas.
C'est ça en 3 épisodes, ouais.
De 20 minutes. C'est mal.
Ça va.
Un bal patriarcat, la transphobie d'État. La famille bourgeoise hétéro, la lesbophobie, le racisme, nous ne voulons pas ça.
Transgresser l'hétéronormativité en situation d'enseignement.
L'hétéropatriarcat, c'est caca.
Frotter, il faut payer. Qui sauvera l'enfant queer ? Le plan B,
hétéronormativité
et crotte de nez.
Bonjour, nous sommes Flora,
Violette,
Céline,
Claudia,
Mathilde,
Béné,
6 meufs, Gwyn, lesbiennes, principalement blanches, mères et non-mères, intervenant à l'école, au lycée, à la fac, dans des associations d'éducation populaire avec des adultes.
Nous nous sommes retrouvés en août 2019 aux 7e rencontres de pédagogie féministe qui avait lieu cette année-là à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. On a le point commun d'être féministe et en situation de transmission ou d'animation avec différents groupes de personnes de tous âges. Ce triptyque radiophonique prolonge les échanges entamés lors d'un atelier sur l'hétéronormativité. Dans ce premier épisode, nous aborderons l'hétéronorme en action, comment et où elle s'exerce dans nos existences, comment nos vies intimes et professionnelles sont traversées par l'hétéronormativité, comment cette norme invisible et néanmoins omniprésente s'immisce un peu partout dans nos existences, nous aliène et nous conditionne à la suivre. Alors, on peut commencer par évoquer peut-être des petites situations dans lesquelles on a été soumise à l'hétéronorme dans nos différents cadres de pratiques professionnelles. Est-ce que quelqu'une veut raconter une histoire ? Une petite situation ?
Moi, je crois que l'hétéronorme, elle s'exerce quand... je l'entends comme quand on invisibilise d'autres formes de sexualité possibles, d'avoir ou pas de la sexualité, déjà, de partager sa vie ou pas avec quelqu'un, et qu'elle s'impose comme le seul modèle, quoi. Et du coup, moi, ça va être des moments où on va parler des homos comme si c'était des autres qui sont... forcément pas dans cette pièce, que ce soit avec des jeunes ou avec des adultes, comme si personne n'était concerné et que c'est être hétéro par défaut, quoi. Et moi, en tant que lesbienne, du coup, y a plein de fois où soit je relève pas, soit j'essaye de poser des questions qui vont permettre d'ouvrir, mais en tout cas, c'est ça pour moi la force un peu de l'hétéronorme, c'est que c'est forcément là tout le temps, quoi.
Quand on préparait, on a aussi pas mal parlé de situations où le fait que ça soit une norme, le fait d'être hétéro et donc d'avoir une vie de couple et donc d'être prise dans une activité reproductive, donc d'être mariée plutôt avec un homme et d'avoir des enfants, et ben en fait ça empêche de relationner parce que c'est toujours ce qui est proposé dans les discussions un peu simples quoi avec des gens qu'on rencontre, et on a pas mal parlé de la machine à café. Et donc ça peut être avec des collègues qu'on a tout le temps, mais je pense que c'était surtout fort avec des gens qu'on rencontre et qu'on connaît pas, et donc notamment avec d'autres femmes avec qui on va faire une intervention, qu'on va voir plusieurs fois, et où en fait, entre les moments où on va faire l'intervention, il va y avoir des petites discussions pour essayer de se rencontrer, et c'est beaucoup autour des enfants, est-ce que t'as un copain, est-ce que tu dragues, nanana, les mecs qui sont là, tu connais machin, il est mignon et tout ça, et comment on se positionne par rapport à ça quand on a quand même envie de les rencontrer, quand on a quand même envie de faire du lien, mais qu'on n'a pas envie de jouer le jeu de l'hétéronorme, et surtout quand on est gouine et puis qu'on est célibataire, voilà, de quoi on parle, quoi, comment on fait le lien. Ça aussi, ça me semble que c'est une forme d'hétéronormativité, c'est ce qui est disponible, quoi, c'est ce qui est là tout le temps.
Oui, et puis c'est ce sentiment de pas être aussi bien que les autres quand on n'est pas avec voilà le schéma typique papa, maman, les enfants, et tu parlais des enfants justement, et ça peut être aussi à l'inverse moi c'est difficile quand je dis que j'ai deux enfants. Ce qui induit, c'est que j'ai une vie hétéronormée, que je vis avec un homme, ou que, et du coup, j'ai l'impression que je dois dire, mais en fait, je suis pas hétéro. Et du coup, j'ai pas forcément envie de dire, et en fait, je sais pas qui je suis, ou en fait, je suis lesbienne, mais depuis pas longtemps, enfin voilà. Mais en même temps, c'est intégrer que si je dis que j'ai des enfants, eh ben on me plaque un schéma de vie dans lequel je me reconnais pas ou plus. Et ça, c'est compliqué parce que c'est invisible en fait. Voilà comment je vois ça.
Moi, ce que ça m'évoquait aussi dans les échanges, c'était la question du couple et que, en fait, comment on fait exister ça quand on est traversé par des histoires avec d'autres meufs, que on n'est pas hétéra par défaut, mais que pour autant on n'a pas de relation de couple, et du coup, dans quelle mesure, on peut plus difficilement, j'ai l'impression, placer des trucs du type oui, avec ma copine ce week-end, enfin voilà, et du coup, comment on peut s'assumer dans ce type de discussion, type machine à café, faire exister aussi notre identité propre, alors même qu'elle est pas présente dans notre quotidien, au travers de relations desquelles on pourrait parler, quoi.
En tout cas, d'une relation de couple qui est plus facilement affichable que de multiples relations, par exemple.
Ouais.
Il y a aussi la question de comment exister dans un espace de travail ou relationnel quand on n'a pas, en fait, de relations, d'espace affectif dit comme tel, et qu'on n'a pas non plus envie qu'on nous plaque des schémas hétéros ou même homo, en fait, qu'on a envie d'exister par soi-même, en fait, pas par l'idée de ce qu'on renvoie. Moi, en fait, c'est un peu particulier parce que j'ai pas de relation amoureuse. Je sais pas si c'est un choix ou un non-choix, mais en tout cas, c'est comme ça. Et en fait, ça dure depuis beaucoup de temps. Et en même temps, j'ai un enfant. Et j'ai l'impression que pour l'extérieur, en tout cas au sein de mon boulot, le fait que j'ai un enfant, c'est ma bouée, en fait, pour eux, en fait. À un moment donné, dans leur paysage, j'ai été hétéro, oui, et ça rassure. Et en même temps, moi, ça me met en colère, parce que j'ai l'impression que qu'on veut toujours me positionner par rapport à quelque chose, et j'ai pas envie d'exister comme ça. Et j'ai pas non plus envie d'exister dans le regard de mes collègues, avec des alliances ou du ressenti ou de l'expérience commune de mère, parce que j'estime que aussi le fait d'être mère, c'est intime, et que j'ai pas envie de partager ça avec mes collègues, et que ce que je partage ou mon expérience de mère avec mon fils, c'est encore autre chose. Enfin, que j'ai pas envie d'exposer, en fait, dans la sphère professionnelle. Et comme ça leur échappe, je sens que ça fait peur. Et ça, c'est très troublant à expérimenter, de pas participer à... Enfin, qu'on puisse pas me positionner quelque part. Et en même temps, j'en tire de la force et de la faiblesse. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà.
Moi, ça me parle dans le sens où j'ai l'impression que ces normes, elles existent parce qu'on a peu de créativité pour faire vivre le besoin d'appartenance. Mmh. et qu'on a toutes et tous besoin d'appartenir. Et en même temps, en l'occurrence, nous ici et beaucoup de monde se sent vraiment enfermé par ces normes et les rejette, se sent mutilé parfois par ces normes. Enfin, vraiment, on a l'impression, quand je dis mutilé, c'est qu'on est obligé de gommer ou d'invisibiliser des parties de soi. Et ça, c'est douloureux. Donc, c'est tout à fait, je comprends vraiment, et chez moi et chez les autres, l'envie de rejeter la norme. Et en même temps, de pas tout jeter. Parce que je pense que le besoin d'appartenance, il est hyper fort. Et qu'on confond les deux. Et qu'on aurait intérêt, justement, pour sortir de cette action réductrice de l'hétéronorme, à vraiment voir ce qui correspond à une envie, un besoin d'appartenance qui est joyeux, qui est, voilà, qu'est-ce qu'on vit ensemble en tant que communauté humaine, et ces normes. Et que malheureusement, c'était trop imbriqué. Mmh. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ouais, moi, ce que vous dites là, ça me fait vraiment penser à cette puissance de la norme par rapport au fait que, en tant que femme, ou identifiée comme telle, on attend de nous le travail reproductif. Donc, si on est mère, comme tu disais, bah, du coup, ça rassure, c'est bon, t'as fait le job, t'as fait ce qu'on attendait de toi en tant que femme. Quand tu le fais pas, et en fait, il faut se rendre compte, je sais pas si les personnes qui ont des enfants se rendent compte de ça, mais le temps de discussion alloué aux enfants dans les conversations amicales, professionnelles, à quel point c'est présent. Alors moi, j'aime bien les enfants, j'habite avec une enfant qui n'est pas la mienne, mais qu'est-ce que ça veut dire la mienne ? Bref, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai conduite. Et du coup, je peux ramener cette expérience-là ou mon expérience avec des neveux et des nièces. Mais en fait, le temps que ça prend, et je pense que ça fait partie de l'hétéronorme dans la cellule familiale nucléaire, même si je sais pas quelle est la sexualité de toutes les personnes qui sont en train de parler dans ces espaces-là, mais quand même, voilà, c'est ça la puissance pour moi de la norme, c'est que, en fait, moi, il y a plein de fois où je peux juste pas participer à la discussion, alors faut que je ramène, que je convoque des expériences d'ailleurs, pour pouvoir un peu me mêler à la petite conversation du déjeuner, quoi. Et en fait, ou alors il faudrait que je dise, moi, avec ma copine, nanana, mais j'ai pas forcément envie de poser ça là. Enfin, voilà, c'est ça pour moi la puissance de ce truc-là, quoi.
C'est ça, et moi, quand je t'entends, je vois vraiment cette impasse de comment je peux participer aux discussions et donc appartenir au groupe et passer des bons moments, des échanges profonds, sans être renvoyé à normalité, quoi. Et c'est compliqué, justement.
Ouais, moi je voulais juste dire un truc par rapport à ça, c'était aussi, je pense que la puissance de la norme, elle se manifeste aussi dans, déjà le fait que c'est compliqué de le dire et qu'on ait du mal à dire, par exemple, je suis lesbienne ou dans des milieux professionnels, par exemple. C'est aussi un truc de, en fait, si on dit ça, on a l'impression qu'on dit un truc de l'ordre de l'intime. Et alors toi, quand tu disais, quand moi je parle du fait d'être mère, c'est quelque chose d'intime et tout... J'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Enfin, que la plupart des gens pensent que c'est tout à fait normal de parler de ça et tout. Mais par contre, que le fait de dire « je suis lesbienne » ou d'autres trucs, on va te renvoyer à... En fait, tu nous livres un truc intime, on n'a pas envie de savoir, c'est ta vie privée, à la limite, on s'en fout, mais en tout cas, c'est pas un lieu pour parler de ça. Alors qu'en fait... quand on est hétéro, on se pose pas cette question et que tout paraît normal et on peut en parler librement et il n'y a pas de question de c'est de l'ordre de l'intime ou de choses dont on peut parler en milieu professionnel par exemple quoi.
Moi par rapport à ça, ça me fait aussi penser un peu ce que tu dis Claudia, ça fait vachement écho à des trucs que je ressens de façon confuse et que j'arrive pas trop à nommer. C'est que je sens que avec les trucs de, alors je vais être un peu sûrement caricatural, mais qu'avec les trucs de mariage pour tous, en fait, il y a certaines d'entre nous, les gouines ou les non-hétéros, qui deviennent respectables et qui, en fait, sont intégrées à l'hétéronorme sans être hétérosexuelles et donc, en fait, peuvent jouer le jeu de la représentation du couple, de la représentation des enfants. Et je trouve ça hyper... Enfin, moi, ça me fait vachement penser qu'on puisse être mère sans avoir envie d'être mère respectable, quoi. Enfin, sans avoir envie d'en faire un moyen de discussion. Et moi, dans ma vie de gouine et en ayant travaillé à plusieurs endroits et en ayant changé de statut, c'est clair que la question d'être célibataire et du coup d'avoir des expériences variées, pas toutes glorieuses, mais pas toutes pas glorieuses, pas plus en fait que dans mes couples, ça m'a fait vachement bouger par rapport à ça. Et du coup, j'ai eu à assumer d'être lesbienne et sans être respectable, quoi. Et c'est carrément plus compliqué et c'est... enfin voilà. Et ça pose beaucoup de questions sur enfin, est-ce qu'on arrête d'être lesbienne si on n'a pas de partenaire, par exemple ? Est-ce qu'on devient totalement invisible ? Et si on ne le devient pas, est-ce qu'on devient totalement inconvenant ? Et en fait, j'ai eu l'impression qu'à un moment, n'ayant pas de partenaire, je sortais du groupe les lesbiennes qui pouvaient être identifiées et je rentrais dans un autre groupe qui existe aussi et qui est les femmes seules. Et alors, elles, en gros, ce qu'on leur propose, c'est on les plaint, on leur souhaite autre chose, à la limite, on les aide, enfin... Et c'est vraiment une place merdique, quoi, femme seule, je trouve. Enfin, il y a un truc sur la réappropriation de la place, quoi.
Et du coup, ça pose la question de l'outing, un peu, tout ce qu'on dit là. Dans quelle mesure, on s'out et sur quoi et pourquoi et avec qui? Est-ce qu'avec les collègues, on s'out à la pause café? Est-ce qu'on s'out auprès des élèves avec lesquels on travaille pour pouvoir, je sais pas, enfin que eux ils sachent qui on est et de quelle place on parle quand on passe beaucoup de temps avec ou avec des personnes auprès de qui on intervient. Et du coup, quel est le sens de ça? Et en même temps, si on le fait pas, du coup, on participe aussi de cette hétéronormativité, puisque de fait, on va, si on n'a pas fait cet outing-là, on va
être supposé
hétéra, quoi. Donc, du coup, c'est, en fait, ne pas s'outer, c'est rejoindre cette hétéronormativité-là. Et en même temps, s'outer, c'est, comme tu disais, genre, oui, ça relève de la sphère intime, mais du coup, comment on existe entre ces deux pôles-là, quoi?
Moi, je disais pas que ça relève forcément de la sphère intime, mais je dis que c'est ce qui est renvoyé aux personnes non hétéro, quoi.
Et je le vois d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai toujours parlé de mes histoires amoureuses avec mes enfants. Et ça fait deux fois qu'on relève, parce que je parle d'histoires avec des femmes, qu'on me renvoie, oui mais ça c'est ton intimité. Chose qu'on ne faisait jamais quand je parlais d'histoires avec des hommes. Et j'ai trouvé ça manifeste vraiment. Pas de la part de mes enfants qui prennent tout à fait de manière ouverte et pour le coup normale, enfin organique, normale dans le sens d'organique. Naturel. Ouais. Mais par contre, ça, j'étais choquée de voir qu'il y avait une résistance, voire, enfin, comme si j'étais impudique de parler de mes relations avec des femmes à mes enfants. Et jamais j'aurais eu cette réflexion. Ça paraît totalement banal et normal que je leur parle de mes relations avec des hommes, quoi.
Et je crois que, en préparant l'émission, on parlait de ça aussi. C'est la question de la sexualisation de quand on est lesbienne. Là, on disait intime depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est la question que quand on ramène à la machine à café avec tes enfants ou ailleurs, le fait d'avoir des relations avec des femmes, c'est directement sexualisé. Mmh. Alors encore plus quand il s'agit d'hommes, de relations entre hommes. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc là que c'est la question de la pudeur, quoi. Mmh. Comme si nous on amenait un truc pas partageable,
très gênant, quoi.
Gênant, ou en tout cas un truc, ouais, qui est pas juste. En fait, je partage ma vie avec une compagne et du coup, bah voilà, on est parti en week-end, on a fait ci, on a fait ça, comme n'importe qui, quoi. Mmh. Et des fois, on est prête à faire ça, à l'amener pour justement bousculer la norme. Mmh. Et des fois, en fait, on n'a pas envie de s'insécuriser dans les relations avec les gens parce que pour X ou Y raison. Et du coup, on ne le fait pas. Mais alors, du coup, on est juste tu et invisible, quoi.
Ouais.
Moi, peut-être aussi sur la question de la norme, là, ce que tu dis sur la sexualisation, ça me renvoie au fait que moi, c'est quelque chose qui n'était pas clair du tout pour moi. Il y a eu des moments où je ne me suis pas outée, alors qu'en général, je suis out un peu tout le temps, quoi. Ça ne se pose pas trop. Notamment quand j'intervenais dans des classes avec des enfants, où là, je ne l'ai pas du tout dit. Et cet été, quand on a fait les rencontres pédagogiques et qu'on a parlé de ça, je me suis dit, en fait, c'est parce que quelque part dans ma tête, ça fait un lien avec le sexe et qu'en fait, je ne parle pas de sexe quand je suis dans une classe. Et ça m'a vachement bousculée. Et du coup, ça m'a vachement bousculée parce que je n'avais pas du tout fait ce lien et que je l'ai fait en switchant direct à l'agression sexuelle, quoi. C'est-à-dire, le lien qu'il y avait dans ma tête, en fait, c'était si je fais ça, je les agresse, alors que je ne l'avais pas nommé. Du coup, ça m'a fait hyper réfléchir. C'est un truc qui m'a bousculé là tous ces derniers mois. Et je me dis qu'une des questions de l'hétéronorme, c'est aussi qu'on la trimballe avec nous, même quand on vit des vies de lesbiennes et que, enfin voilà, qu'elle se met dans des toutes petites niches et qu'on la vit pour soi-même. Donc il y a des endroits où on se censure et aussi on la plaque sur les autres. Et on a pas mal parlé dans la préparation de comment on présuppose pas l'hétérosexualité des unes et des autres qui nous entourent. Et je pense que ça, c'est un C'est un grand sujet à la fois avec les personnes avec qui on a des relations pédagogiques, quoi, les élèves, les étudiants ou les personnes qui participent aux formations où on bosse, mais aussi avec nos collègues en fait. Et j'ai l'impression que tant qu'on fait ça, on ne peut pas avoir d'alliés, on ne voit pas les autres qui sont avec nous. Enfin, voilà. Ça me pose question, moi, comment on la trimballe et comment on la plaque du coup sur les autres, quoi.
Oui, comment on la reproduit aussi en fait, du coup.
Ben, je crois que c'est un peu comme le sexisme, en fait. On est tous et toutes des agents du sexisme, et on est tous et toutes des agents de l'hétéronorme, même si on est lesbienne, en fait. Et même d'homophobie intériorisée, et qu'on va plaquer sur des autres. Effectivement, on pourrait se dire, je plaque moi de l'hétéronorme, et que je pense que cette personne est hétéro par défaut, comment je peux attendre qu'elle fasse passer avec moi, ou lui fasse passer avec moi? Enfin, c'est un peu... Il y a un truc de cohérence, quoi. Mais en fait, on est pétri de ça, on trimballe ça avec nous, comme tu disais, Violette, et du coup, ben, ouais, on l'agit autant.
Et en même temps, même si, évidemment, comme vous l'avez dit, ça dépasse la question de l'orientation sexuelle, parce que quand on se out, par exemple, on parle pas de sexualité, on parle de plein d'autres choses, de mode de vie, enfin de notre réalité. Je voudrais revenir à cette question quand même, parce que, enfin, moi, je le vois avec... les groupes d'enseignants que j'anime ou avec mes enfants, avec leurs amis, qui a vraiment cette homophobie ambiante dans les éléments de langage, dans l'hétéronormativité qui n'est pas forcément, enfin qui entraîne l'homophobie en fait, qui induit de l'homophobie. Enfin, je sais pas quelle est la cause, quelle est la conséquence, oui. Mais c'est très lié. Je suis triste, en fait, de voir tout ce qui n'a pas pu être permis à cause de cette hétéronorme en action, chez moi, chez d'autres. Ce que j'essaye de permettre, justement, dans les groupes que j'accompagne ou avec mes enfants, mais que enfin, c'est des gros deuils, des gros gâchis, et c'est vrai qu'il y a de quoi être vénère quand on se penche sur ça et qu'on voit les conséquences.
On se rend compte.
Ouais.
Thank you.
pense que c'est aussi dans plein de tout petits moments, enfin que c'est un peu tout le temps, c'est vraiment ce truc que c'est omniprésent et que du coup c'est dans plein de phrases, dans aussi, je sais pas, des mini bouts de phrases qui ont pu être prononcées, moi je pense dans mon enfance quoi aussi, des trucs qui restent marquants, du type oh là là, ça doit pas être facile pour des parents quand même d'avoir un enfant comme ça, et quand ça vient de nos propres parents, ça paraît une phrase anodine, mais en fait elle reste marquante, ou je sais pas, tout un tas de moments comme ça qui, où en fait chaque moment participe de cette hétéronorme là et fait que du coup on se construit parfois avec peu de modèles, parfois avec des modèles, et en tout cas avec plein de petites phrases qui viennent s'immiscer et construire cette norme tout autour, quoi, en se disant ah oui, là, quand j'avais 6 ans, on m'a dit ça, et du coup, c'est resté ancré, enfin voilà, comme un truc.
Qui nous rappelle à l'ordre.
Voilà. Et aussi, je repensais aux questions d'assignation de genre, mm-hmm. où ça aussi, je trouve que ça participe à ça, à cette hétéronorme-là, et au fait de toujours être réassigné à ce qu'on va projeter sur nous. Enfin, moi, à plein de moments, je note de plus en plus, ou je sais pas, ça m'apparaît plus ces derniers temps, le fait que systématiquement on dise bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mesdames, ah pardon je me suis trompée, enfin comme s'il fallait absolument préciser le genre de la personne, et je me dis mais en fait c'est bon, peut-être on peut vivre nos existences comme je sais pas des êtres humains où on n'est pas obligé de nous mettre là dans telle et telle case qui vient reproduire, alors parce que s'il y a un monsieur et une madame ensemble, alors on est content et on est rassuré, on a passé une bonne journée. Enfin voilà, je sais pas, ça m'interroge quoi.
Ouais, c'est-à-dire que l'hétéronorme, elle agit pas seulement sur la question de l'orientation sexuelle, mais aussi sur comment on renvoie tout le temps les gens à leur identité de genre supposée, et que comment du coup ça conditionne ce qu'ils vont devenir et leur comportement, parce que enfin ouais, on a ce cadre là qui est figé quoi, un peu.
Moi ça me fait penser aussi que ce que tu dis là sur le fait qu'on y renvoie tout le temps, et on y renvoie d'autant plus qu'on est dans un cadre pédagogique, notamment avec des enfants, et qu'on est perçu comme femme, donc on convoque chez nous des compétences qui seraient nos compétences naturelles, ouais, de femme. On tirerait notre légitimité de notre travail reproductif à la maison quoi. Et donc si on assume de pas être à cette place-là, du coup on pose problème, enfin en tout cas ça crée un trouble. Et je me dis aussi que c'est clé cette question de l'hétéronormativité, parce que d'une part pour pouvoir s'occuper d'enfants, il faudrait être mère, mais aussi ces enfants, ils devraient tous être hétéros. Et quand on a préparé, quand on avait fait l'atelier cet été, on avait parlé pas mal du texte de Paul Preciado sur qui s'occupera de l'enfant queer ou qui sauvera l'enfant queer, où il raconte du coup sa vie d'enfant queer, ce que ça a fait à ses parents aussi, qui déroge à cette règle de genre, à cette norme de genre et à cette hétéronormativité hyper forte dans l'Espagne franquiste, et aussi ce que ça fait quand elle est bousculée à une échelle sociale plus globale, notamment la question du mariage pour tous et toutes en Espagne, et comment aussi pour les parents c'est libérateur de pouvoir faire face au fait que leur enfant n'est pas à sa place, assignée dans la norme de genre et dans l'hétéronorme, et qu'en fait, ils ne sont pas fautifs en tant que parents. Mmh. Et je trouve que cette question-là, c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant de lier hétéronormativité et pédagogie, quoi. Puisqu'en fait, ces enfants qui sont face à nous, et ces adultes et ces jeunes, ils ne sont pas tous hétéros.
Moi, ce que ça me fait, là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que je crois qu'il y a de la tristesse et de la colère par rapport à, encore une fois, devoir expliquer l'ampleur du problème, quoi. J'ai l'impression que pour nous, en tout cas moi, en tant que lesbienne, c'est au quotidien, ce truc-là. On l'a dit hein, depuis le début, que ça s'immisce dans plein d'interstices, dans plein d'endroits, dans plein de choses qu'on voit ou qu'on voit pas, qu'on dit ou qu'on dit pas. Enfin, pour moi, c'est hyper présent tout le temps, l'hétéronorme. Et pourtant, quand je discute avec des personnes, parce qu'elles sont hétérosexuelles, parce qu'elles sont en couple, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont dans une famille nucléaire, dans une maison ou un appartement, enfin bref, avec tout ce que ça implique, eh ben, il faut que je sais pas comment... ça paraît disproportionné, la colère que je ressens, mais comme en tant que féministe, paraît toujours, c'est toujours trop, alors qu'on a envie de dire, mais tu te rends même pas compte de l'ampleur des dégâts que ça fait sur nous. Et Mathilde, tu parlais de deuil et de blessures, et moi je crois qu'en fait c'est colossal, quoi. Ça, 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 ça brise des identités, des existences. Et en fait, il y a des fois, j'aurais envie de secouer les personnes, de leur dire, mais tu te rends pas compte à quel point c'est puissant et à quel point, moi, toute la journée, je me la prends en pleine gueule, cette hétéronorme, et comment ça handicaper ou inhiber des trucs de moi, de ce que je me sens capable de faire ou pas dans le monde, enfin, même juste de circuler dans le monde dans lequel on est, et encore plus d'avoir une position de, où je dois être devant un groupe d'adultes ou de jeunes, enfin, bref. Du coup, voilà, ça me fait un peu ça.
Ouais, moi, je rejoins carrément ta colère, Céline, et en même temps, je vis de la joie, justement, à d'autres moments, et c'est complémentaire, je pense, quand, justement, j'ai de la clarté sur « Ah, mais c'est pour ça que je me faisais autant chier dans plein d'endroits. » Et je passais beaucoup de temps à juger les autres, ou encore plus à me juger, de pas être comme il faut, de pas savoir, de d'être anormal, de mais je ne savais pas pourquoi en fait. Et depuis que j'ai cette grille de lecture de l'hétéronormativité, ben ça me donne beaucoup d'empathie en fait sur mon ennui.
On arrive un peu à la fin de cette première partie. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez aborder avant qu'on arrête?
Non, ben j'ai hâte de voir quel ressort, quel recours on va pouvoir inventer, et parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup question de aussi pour sortir de tout ça, de quels imaginaires on peut créer et vers où on va. Et du coup, je suis curieuse de la suite. J'espère que les auditeurs, auditrices aussi. Et du coup, on va pouvoir brosser ça dans les épisodes à venir.
Peut-être pour juste un petit mot avant de finir, je me dis qu'en fait, quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est hyper important, c'est que l'hétéronormativité, quand on est lesbienne, on y est rappelé tout le temps. Mais en fait, quand on est hétéro aussi, et que cette question d'inclure les lesbiennes, les non-hétéras et toutes les formes plurielles de rapport à l'hétérosexualité possible dans une perspective féministe qui englobe tout le monde, en fait, ça libère tout le monde et ça fait avancer toutes les femmes en mettant un peu d'air là, dans cette grille hétéronormative et en fait patriarcale.
En résumé.
Non, mais quand même, pour ça.
Eh, on n'avait pas placé patriarcat quand même depuis le début de l'émission, c'était chaud.
Toutes les femmes et les gwyn et les lesbiennes, enfin, et les personnes assignées femmes à la naissance ou pas et qui se reconnaissent.
Yes. Et du coup, on écoute de la musique?
Allez.
On se quitte en musique. Bonne écoute.
La escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a darte duro. Bien bow, bien bow, bien bow, bien bow, alza la mano si...
Dans ce deuxième épisode, nous évoquerons nos modèles ou nos absences de modèles dans nos parcours et nos pratiques. Quels sont les modèles d'identification disponibles? Quelles sont les alternatives aux modèles dominants? En tant que Gwyn, ou quand on ne se conforme pas à l'hétéronormativité, quel rôle on peut jouer pour proposer d'autres modèles? Donc voilà, c'est ce qui va nous occuper dans ce deuxième volet. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous avez eu des modèles quand vous étiez petite? Quels sont les modèles que vous avez eu en tête dans votre enfance, adolescence ou si vous n'en avez pas eu? Enfin, on commence par un petit tour d'horizon.
Allez, moi je veux bien prendre. Moi j'avais plutôt zéro modèle. En fait, je pense que à l'époque du collège, lycée, il n'y avait carrément pas de lesbiennes. Ou alors en tout cas, elles se cachaient. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un truc un peu invisible et que je savais que ça existait si on veut. Mais en fait, comme j'avais aucune représentation, je ne pensais pas que c'était. Enfin, j'arrivais pas à me dire que ça pouvait arriver, quoi. Et donc, je pense que pendant longtemps, ça a quand même eu un rôle dans le fait que je savais pas que j'étais lesbienne. Et du coup, ouais. Enfin, a posteriori, je me dis, mais en fait, c'est fou comment. Je pense une personne déjà, ça aurait pu juste servir à m'éclairer, à me dire, ah, en fait, c'est possible, et juste de voir une personne qui est proche, dans un environnement proche, qui représente ça, ça aurait été, enfin oui, ça aurait permis, je pense, peut-être d'ouvrir la possibilité, quoi. Qui n'a pas, enfin oui, c'était juste inconcevable dans mon environnement tel qu'il était à l'époque, quoi. Voilà.
Merci. Moi, c'est pas mal ça aussi, c'est-à-dire que j'ai vécu dans une petite ville où, pareil, c'était pas du tout un truc envisageable. Dans ma famille, c'était pas du tout présent. Comme tout le monde, hein, les films, les séries, les trucs que je regardais, les magazines, les BD, tout ça, évidemment, c'était pas du tout là. Et effectivement, je me rappelle assez tôt avoir ressenti des choses et pas pouvoir du tout être complètement paumé avec qu'est-ce que ça pouvait être et... parce que ça se raccrochait à rien de ce que je voyais, quoi. Et je sais que je cherchais, je me rappelle d'avoir été troublée régulièrement dans ma scolarité par des enseignantes. Je sais pas si j'étais amoureuse d'elles ou si je tripais sur un truc d'identification, mais en tout cas, celles qui étaient un peu, justement, pas tout à fait dans la norme ou peut-être qu'il y avait des trucs qui circulaient dans le lycée, que peut-être elle était lesbienne ou je sais pas quoi. En tout cas, chez moi, ça créait vraiment un truc de... Je sais pas si c'était de l'attirance, mais en tout cas, ça me fascinait un peu, ouais, ça faisait un truc un peu de... Peut-être que... Enfin voilà, ça créait d'émulation, quoi. Et par contre, j'ai fait partie d'un club de volley pendant longtemps. Et là, quand même, dans le volley féminin, y a plein de lesbiennes. Et c'était pas dit comme tel, mais il y en avait certaines qui étaient en couple, et je le voyais un peu. Alors, du haut de mes 12-13 ans, ça faisait quand même un truc où ça existait un peu, mais en même temps, il n'y avait pas de mots vraiment posés. Du coup, je sais pas, il y avait... Et en même temps, de l'invisibilité, et en même temps, un endroit où il y en avait un peu quand même. Donc, je crois que ça m'a aidé aussi. Il y a eu plusieurs mouvements pour moi. Il y a eu de l'homophobie intériorisée très fort, et en même temps, d'autres choses. Enfin, voilà.
Ouais, moi, j'ai grandi... Enfin, j'étais ado à la fin des années 90. Donc, pour moi, les lesbiennes n'existaient pas, ou très peu. Et les gays, c'était autour de la question du VIH, quoi. Et c'était les représentations que j'avais. Sinon, pas du tout. Mais vraiment pas de modèle. Un modèle repoussoir, même. Plus de la figure de la célibataire. Que la lesbienne, mais qui potentiellement peut être lesbienne ou lesbienne refoulée. J'avais une tante qui était célibataire et c'était un peu le pire truc qu'on pouvait me souhaiter et que on se demandait que si peut-être elle n'était pas lesbienne. Même on en avait presque un peu peur et pareil, un oncle, c'était le même schéma. Donc pas très réjouissant la figure du célibataire peut-être. Flippant et gay ou lesbienne, et on disait pas le mot d'ailleurs. Sinon, je me souviens avoir questionné ça petite, justement, parce que j'avais une attirance pour une fille à l'école primaire, une fille plus grande, et je me souviens que je sentais déjà, j'avais 6 ans, mais je sentais déjà que c'était pas normal, et j'ai quand même voulu, j'avais quand même une... peu une quête, une interrogation à la fois personnelle mais philosophique. Je me souviens que c'était la question de la norme que j'interrogeais. J'allais voir des enfants et leur demander, j'ai été voir plusieurs personnes, plusieurs groupes pour demander si c'était normal ou pas, parce que je comprenais pas que ça puisse être aussi fort en moi et en même temps pas possible en fait. On m'a renvoyé, j'avais déjà intériorisé que c'était pas possible et du coup j'ai appris à pas faire confiance à ce sentiment quoi. Et c'est fou le poids de la norme qui est prêt à taire des choses aussi intenses quoi. Enfin, j'hallucine maintenant même.
Moi ça me parle ce que tu dis parce que je pense que j'ai eu des ressentis un peu communs à l'adolescence où je me posais pas mal de questions et où à la fois dès qu'il y avait une possibilité d'échanger avec un PD ou une lesbienne, hop, je sautais sur l'occasion. Mais aussi quand j'étais pas trop mouillée dans l'affaire, genre il y avait un ami de mes parents qui était venu passer quelques temps dans la ville où j'habitais. Et puis après, il est parti et donc j'ai récupéré son adresse mail pour lui envoyer un mail pour savoir comment il avait fait son coming out ou comment il s'était rendu compte lui que... Enfin voilà, du coup, j'étais hyper en questionnement là-dessus. Puis j'écrivais des petits textes en me disant « Ah, c'est quand même vachement mieux d'être homo parce que du coup, il n'y a pas ce truc de reproduction derrière. » Enfin, je sais pas, j'étais vraiment en plein de questionnements par rapport à ça. Et aussi, je me souviens que j'étais allée voir des copines qu'on avait rencontrées, un couple de copines lesbiennes qu'on avait rencontrées un été en voyage avec mes parents. Et du coup, j'étais allée leur rendre visite et en fait, il y avait tout un truc, il y avait une grève de transport et donc finalement, ma grand-mère m'a accompagnée et puis elles lui ont dit « Mais montez !» Et puis finalement, après, ma grand-mère est partie et quand les copines ont dit « Ah bon, bah c'est bien qu'elle soit montée, comme ça, elle a vu qu'on n'était pas des monstres. » Et en fait, après, quand j'ai rééchangé avec mon frère, il m'a dit « Non mais si tu savais tout ce que j'ai entendu après, ah, elle s'est bien gardée de me le dire et tout. » Alors que moi, j'étais vraiment en mode « Bah en fait, quand je vais voir un couple hétérosexuel, je dis pas que je vais voir un couple hétérosexuel, du coup, je vois pas pourquoi là, je devrais le préciser. » Mais voilà, du coup, je me souviens de tout ce truc qui, à la fois, où j'étais vraiment en questionnement et que dès qu'il y avait une possibilité, j'allais chercher et qu'après, j'ai comme effacé parce que ça, c'est plus non plus complètement produit dans mon entourage, à part ces quelques bulles que j'ai en tête, quoi. Mm-hmm. Mais l'hétéronorme est revenue assez vite au galop.
Moi, sur la question de... Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une question de suspicion quand... on n'est pas en couple ou on a envie ou pas d'être célibataire. Ça, c'est un gros poids chez moi. Et d'une manière hyper paradoxale, parce que depuis que je... Il y a toute une partie de ma famille, par exemple, dont j'ai fait le choix de plus voir, parce que c'est pas compris, en fait. Je sens que je suis toujours ramenée à cette idée que... Il faut que tu rencontres quelqu'un et tu n'as pas rencontré quelqu'un. Et c'est la seule question qui vaille dans l'actualité. Il peut m'arriver quoi que ce soit, enfin, tout plein de choses. Et c'est uniquement ça qui est questionné. Et il peut m'arriver des tonnes de choses dans ma vie, bien ou pas bien. En tout cas, c'est ça qui importe. Et du coup, moi, j'ai fait le choix il y a quelques années, il y a 7 ans à peu près, de plus vouloir me confronter à ce modèle-là. Que je trouve absurde, qui m'est renvoyé par cette partie-là de ma famille, je leur parle plus, à l'image de beaucoup peut-être d'autres personnes qui sont pas hétéra et qui choisissent aussi cette tangente ou de couper, parce que je trouve ça trop douloureux. Et en même temps, c'est hyper paradoxal, parce que moi, en termes de modèles proches comme ça, par exemple, j'ai pas vraiment eu de mère. Et mon père, il est pas représentatif nécessairement. Il a jamais bossé de sa vie. Il s'est toujours occupé de ses enfants. Enfin, du coup, il correspond pas non plus à un certain nombre de choses. Et c'est vrai que je sais pas si je suis comprise par lui. Je suis pas persuadée d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas de ce côté-là de cette famille que j'ai des problèmes ou qu'en tout cas, je sens des résistances, quoi. Mais voilà. Et il n'y a pas de modèle de célibataires fortes, ou si quand il y en a, il y a toujours de la suspicion d'avoir de la douleur derrière, ou en tout cas, du coup, voilà, je suis pas très étonnée de pas avoir trouvé de modèle. Et puis, est-ce que c'est gênant? Je suis pas sûre. Je me dis que je fais mon chemin. Après, sans doute que ça aurait été un petit peu aidant de trouver des choses auxquelles se raccrocher. Mais voilà. Après, moi aussi, je parle d'une période qui est relativement récente, dans le sens où, en fait, t'es déjà dans l'âge adulte pour assumer ce genre de choses. Et c'est quand même très différent que de se construire... dans l'enfance, dans l'adolescence et après à l'âge adulte, c'est... Enfin, voilà.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme. Et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
Thank you.
Moi, peut-être, je peux parler depuis la position singulière que je pensais pas adopter ici, de quelqu'un qui a eu plein de modèles, en fait. Enfin, il se trouve que mes parents sont un couple hétéro, mais en fait, dans la famille de ma mère, il n'y avait pas d'hommes, quoi. Donc, ma grand-mère, elle a eu des enfants sans père, elle a eu des filles qui, elles-mêmes, n'ont eu que des filles, ou presque, et mes deux tantes, sans mari ou avec des alliances qui bougent, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, mon espace familier et connu et tout, c'était plutôt un espace de femmes qui s'entraident et qui font alliance entre elles. Enfin, ma mère et sa sœur la plus proche, elles ont élevé la fille de ma tante ensemble avant que ma mère rencontre mon père, et c'est resté quand même un peu comme sa fille. Enfin, et du coup, nous, ma sœur et moi, on a été élevés là-dedans, et mon père, il a une masculinité qui est pas flamboyante, on va dire, et qui laisse la place, en fait, plutôt à des alliances de femmes qui sont vraiment la base de ma famille. Même si il est pas absent, il est là et tout. Mais en tout cas, c'est pas... Enfin, il y a d'autres couples que le couple papa-maman qui existait. Et il se trouve aussi que dans mon parcours scolaire, en fait, il y en a toujours eu des gouines. Enfin, alors je pense que peut-être elle parlait pas d'elle comme ça, mais en tout cas, des lesbiennes visibles. J'ai eu une prof d'art au collège qui a été tout le temps là, enfin, que j'ai eu tous les ans, et qui était lesbienne, qui venait avec sa compagne aux événements de l'école, et en fait, voilà, enfin, elle était là, et j'allais en colonie de vacances, un peu toujours au même endroit, avec une animatrice qui était lesbienne, très visible, dans un truc, enfin, vachement plus outrancier, qui, moi, était pas du tout mes codes de mon milieu social, mais qui était super éblouissant pour, je pense, l'adolescente un peu en question de moment. Après... au lycée, il y avait des lesbiennes dans mon lycée, il y avait des soirées lesbiennes, donc voilà, ça existait. Et ensuite, à la fac, j'ai fait mon mémoire avec une prof Gwyn, ouvertement Gwyn, qui faisait qui mettait en cours les espaces, je suis urbaniste, et donc les espaces des Gwyn et des PD dans la ville. Enfin, et du coup, en fait, j'en ai tout le temps eu. Et il se trouve que, alors je sais pas si c'est lié, moi j'ai l'impression que des fois c'est lié, mais... Enfin, pour moi, ça a été sans question, le passage, le fait d'être lesbienne, d'avoir des rapports lesbiens, ni dans ma famille, ni finalement avec mes amis. Enfin, ça m'a questionnée, mais comme le début d'une sexualité, à la fin de l'adolescence et tout ça. Et donc, je me dis que peut-être la question d'avoir eu plein de modèles, alors c'est très surprenant, peut-être, mais en tout cas, c'était le cas. Je pense que ça joue un truc sur des parcours qui sont pas douloureux. Par exemple, moi, je n'ai pas du tout vécu ça comme un truc dramatique, triste, inquiétant. Vraiment pas. Et du coup, bon voilà, peut-être que c'est aussi lié au fait que ça a existé. Même si, en même temps, un des trucs que je me demande là, si on parle modèle, est-ce que nous, si on est lesbienne ou qu'on n'est pas conforme à ce que sont censés être les hétéros, est-ce qu'on peut être des modèles ? Une des choses que je me dis, c'est que quand même, je suis toujours surprise, tu vois, la trentaine passée, ça fait un bail que j'ai des histoires avec des lesbiennes et que je rencontre, d'en voir une d'une sorte que j'avais jamais vue, quoi. Et que je suis encore toujours à me dire, tiens, mais quelle diversité, quoi. Et donc, une question, j'ai l'impression, sur la visibilité lesbienne, c'est aussi la visibilité de... On n'est pas d'accord, on n'est pas la même bande, même si on a une place, peut-être... on a des expériences de domination qui sont communes, mais... Voilà, enfin, moi, je m'interroge un peu sur ça, et sur comment on se visibilise comme un exemplaire pas super représentatif, mais voilà, qui existe, quoi.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Violette par rapport au... le fait d'avoir des modèles ou pas, et je pense qu'en fait c'est des questions de comment ça crée de la force ou de la puissance. En fait, c'est trop bien d'être lesbienne, enfin on peut quand même se dire ça, quoi, que c'est vraiment génial et que on peut souhaiter ça à tout le monde, et que en fait moi ça les modèles qui sont venus positifs là-dessus, c'était vraiment lié au féminisme. C'est vraiment le féminisme et les féministes qui avaient une parole sur les lesbiennes qui m'ont aidé à avoir une image hyper positive, et aujourd'hui elle est hyper forte et hyper construite en moi, d'une image positive d'être lesbienne. Mais ça, c'est un truc qui est venu plutôt à l'âge adulte, quoi. Mais comme quoi, ça peut arriver.
Du coup, ça me donne envie de, d'enchaîner sur quels modèles sont possibles, puisque visiblement, ça facilite les choses d'avoir des modèles. Je sais qu'on a un album, par exemple, Jeunesse, à disposition avec nous. Peut-être c'est le moment de l'ouvrir et de le partager.
Pourquoi est-ce qu'on a envie de lire un album jeunesse ? C'est aussi lié au fait d'avoir des modèles déjà tout petits, d'autres formes que papa et maman, et que la famille, quoi. Et il existe des albums. Alors, il y a un peu une idée reçue, je pense, un stéréotype autour de « Ah oui, mais aujourd'hui, il y a plein d'albums, c'est bon, il y a plein de diversité ». En vrai, il suffit de faire l'expérience d'aller dans une librairie et de demander pour se rendre compte qu'il n'y a pas tant d'albums jeunesse qui proposent d'autres modèles... que le couple parental, quoi, papa-maman. Et que s'il y en a, c'est le centre de l'album, c'est le centre du sujet, c'est Tango à deux papas ou...
Une invitation à la tolérance.
C'est ça. Un truc où c'est le sujet principal, quoi. Et du coup, en faisant un tour de librairie, Flora t'a ramené Amour, beauté et crotte de nez, qu'on propose de vous lire.
Oui. Ouais. C'est de qui?
C'est de Marzik et Morisseau. Et c'est édité au Fourmis Rouges. Il était une fois le pays des crottes de nez. Dans ce pays vivait Magali. Laisse-moi te la présenter. Magali était une jolie boulette, toute ronde et pleine de vie. Elle vivait avec deux compagnons très mignons, Léon, le mini papillon, et Tony, le lombric arc-en-ciel.
Magali cultivait deux passions. La première, c'était la chips. Elle adorait les chips et les fabriquait elle-même. Des chips de pommes de terre, tu t'en doutes, mais aussi de carottes, de betteraves, de radis, de champis, de salami, de camembert aussi. Des chips croustillantes, des folles et des fondantes.
Sa deuxième passion était la coiffure. Il n'y en avait pas deux comme Magali pour imaginer des coiffures de génie et tous les habitants du village se pressaient dans son salon.
Magali, Léon et Tony habitaient tous les trois dans une adorable maison-née, dans un village rempli de maisons-nées.
Un jour, Magali reçut une invitation. Et pas n'importe laquelle. Grand concours. Chère Magali, nous organisons le concours de la plus belle coiffure. Le gagnant remportera son poids en chips. Rejoins-nous vite demain à Las Vegas. Gros bisous. Cathy, Pipa, Tammy, Rita.
C'était comme dans un rêve. Ce concours réunissait les deux passions de Magali. Elle se voyait déjà sur la première place du podium, celle de la grande gagnante, avec une tonne de chips.
Elle parla du concours à tous les habitants du village. Ils en restèrent d'abord.
Pour l'encourager, ils organisèrent une fête épatante avant son départ.
Le lendemain, Magali et ses deux compagnons enfilèrent un parachute. Ils devaient s'équiper pour utiliser le moyen de locomotion le plus rapide du monde, la catapulte.
Dans les airs, c'était super. Mais une fois à terre, petit souci. Ils ne reconnaissaient rien du tout. Zut de zut, ils n'avaient pas atterri à Las Vegas comme prévu. Mais où se trouvaient-ils?
Donc on les voit dans un univers de champignons, d'êtres bizarres avec des bouches sur des fleurs et de trucs roses, des espèces de protubérances. Ils commencèrent à explorer les environs. Ils n'étaient pas très rassurés.
Soudain, des petites créatures hirsutes surgirent des buissons. Elles avaient l'air franchement menaçantes. « Nous sommes la tribu des boulettes de pied, et vous êtes sur notre territoire. Vous êtes maintenant nos prisonniers. » Elles attachèrent Magali, Léon et Tony comme des petites saucisses, et elles les emportèrent dans leur village. Il faut bien te l'avouer, nos trois amis étaient pétés de trouille. Arrivés au village, on les enferma dans une cage. À leur grande surprise, cette cage contenait déjà une prisonnière. C'était une crotte de nez, qui s'appelait Mireille. Elle était chanteuse. Elle expliqua à Magali qu'ils allaient être tous rôtis à la broche.
La situation était terriblement déprimante. Pour se changer les idées, Magali décida de coiffer Mireille, qui en avait bien besoin. Le résultat fut fidèle à son habitude. Éblouissant.
Tellement éblouissant que toute la tribu voulut se faire coiffer elle aussi. On libéra sur le champ les prisonniers. Magali ne se fit pas prier et coiffa les boulettes les unes après les autres. Sur chaque tête, elle inventa une nouvelle coiffure.
À la fin, elle tombait d'épuisement, mais toute la tribu était aux anges.
Les boulettes de pied s'admiraient et se complimentaient. Gros succès.
Du côté de Magali et Mireille, il faut te signaler un événement capital. Tu l'as peut-être remarqué, depuis leur rencontre, Magali et Mireille étaient tombées gravement amoureuses. Elles ne pouvaient plus se quitter et profiter de chaque instant passé ensemble.
Au bout d'un moment, Magali eut envie d'emmener Mireille dans son village pour lui présenter tous ses amis. Magali promit aux boulettes de pied qu'elle reviendrait s'occuper de leurs cheveux. Puis vint le moment des au revoir. Magali, Mireille, Léon et Tony enfilèrent leur parachute et prirent un moyen de transport aussi rapide que la catapulte, le lance-pierre.
Peut-être qu'on vous raconte pas la suite, vous lirez la fin si vous achetez l'album.